Le débat de France 24, on s'intéresse aujourd'hui à ce 8e sommet de la communauté politique européenne. C'est en Arménie. Il se déroule dans un contexte particulier pour cette Europe coincée entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Sommet en présence notamment du Premier ministre canadien Mark Carney. Est-ce le signe que l'Europe a compris qu'elle avait besoin de nouveaux partenaires? Quid dans tout cela de Donald Trump toujours embourbé dans la question iranienne? On évoquera aussi l'Arménie qui cherche à renforcer son ancrage européen. Plusieurs dossiers au programme aujourd'hui, donc je vous présente mes invités. Bonjour Muriel Domenac. Merci d'être là. Vous êtes l'ancienne ambassadrice française auprès de l'OTAN. C'était entre 2019 et 2024. À votre droite, Jacques Krupnik. Bonjour. Politologue, historien, spécialiste de l'Europe centrale, directeur de recherche émérite à Sciences Po. Face à vous, Ulrich Bouna. Bonjour. Analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, chercheur associé au think tank Eurocréative. Et je salue depuis Yerevan Talin Papazian, enseignante à Sciences Po Aix-en-Provence, directrice d'Armenia Peace Initiative. Merci à vous quatre d'être là. On reste donc à Yerevan pour cet important sommet de la communauté politique européenne. Une quarantaine de pays, je parlais du Canadien Mark Carney, évidemment l'Ukrainien Volodymyr Zelensky est là aussi. À l'ordre du jour, la sécurité continentale, notamment, vieux serpent de mer s'il en est. Les enjeux, c'est avec Bilal Tarabet.
À peine arrivé à Yerevan, Emmanuel Macron s'offre un bain de foule en compagnie du Premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Tandis que Volodymyr Zelensky, lui, enchaîne les réunions avec les pays de l'UE, mais aussi les Britanniques. Pendant deux jours, à commencer de ce lundi, l'Arménie accueille deux sommets européens. La question est, pourquoi une telle démonstration de force diplomatique ? L'an dernier, l'Arménie a adopté une loi pour déclarer son intention de candidater à l'Union européenne, provoquant la colère de Moscou, qui brandit des menaces sur l'économie du petit pays du Caucase. Les relations entre l'Arménie et la Russie se sont nettement refroidies depuis que Moscou a choisi de ne pas intervenir dans la guerre de 2023 contre l'Azerbaïdjan, qui a vu la perte pour l'Arménie de l'enclave du Haut-Karabakh. Le premier des deux sommets européens qui ont lieu à Yerevan a lui aussi Vladimir Poutine dans le viseur. Il s'agit d'une réunion de la Communauté des pays européens, une CPE créée à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine pour renforcer la coopération entre la cinquantaine de pays du continent. La présence du Premier ministre canadien est un signal de l'ouverture vers une Amérique hors Donald Trump. La France, qui accueille l'une des diasporas arméniennes la plus nombreuse avec la Russie et les États-Unis, doit signer un partenariat stratégique avec Yerevan, défense, économie, culture. Mais l'avenir de l'Arménie se joue aussi dans quelques semaines, avec la tenue d'élections législatives, sur lesquelles plane la crainte d'ingérence russe.
Muriel Domenac, dans le contexte que l'on connaît, cette Europe coincée entre Donald Trump et Vladimir Poutine, quelle importance ce sommet ?
Ben c'est très important que les Européens puissent s'organiser entre Européens, avec même le Premier ministre canadien, dans une situation de sécurité en Europe qui est extrêmement tendue. Vous savez que la communauté politique européenne, c'est une initiative française à l'origine, en 2022, après l'agression de l'Ukraine, avec l'évidence du besoin de s'organiser entre Européens, au-delà de l'Union européenne. Et c'est significatif que la communauté politique européenne se réunisse à Yerevan, puisque alternativement, c'est une fois dans un pays de l'Union européenne, une fois dans un partenaire extra-Union européenne. Cette année, c'est Yerevan. Alors Yerevan, ça veut dire quoi? Un, ça veut dire le désenclavement de l'Arménie, et ça aussi, c'est vraiment de l'ingénierie diplomatique française. Vous savez que la France soutient non seulement l'Arménie, son émancipation de la tutelle russe, mais aussi le processus de paix avec l'Azerbaïdjan. Et puis Yerevan, ça veut dire aussi à quelques centaines de kilomètres de l'Iran, hein, puisque l'Arménie est frontalière de l'Iran. Donc c'est un moment important. J'entendais votre journaliste dire Vladimir Poutine dans le viseur. Je crois que c'est en aucune manière une provocation vis-à-vis de la Russie. Hein. La Russie n'est pas chez elle à Yerevan. Erevan ou si elle le pense, c'est à tort. Mais c'est évidemment avec à l'esprit la menace que la Russie fait peser sur le continent européen, pas seulement l'Union européenne, hein, mais aussi de la désinformation envers l'Arménie, envers la Moldavie. Et puis c'est avec à l'esprit, je dirais, l'hubris américaine hein, des États-Unis. On le voit encore ce soir enlisé dans l'emploi de la force au Moyen-Orient. Donc c'est un moment important et un sommet important.
Jacques Rupnik, c'est quand même un sacré choc que vivent les Européens. Ça fait quand même 16 mois désormais que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Mais d'un point de vue historique, c'est une sacrée période d'incertitude qui s'ouvre pour les Européens.
Oui, c'est une période d'incertitude. Mais en même temps, c'est dans des situations comme ça que les Européens peuvent se retrouver ou doivent se retrouver. Parce que si vous avez une guerre à l'Est, celle que Poutine a déclenchée face à l'Ukraine, vous avez une guerre au Sud maintenant, celle du Moyen-Orient, avec toutes les répercussions que cela peut avoir en Europe. Et puis vous avez à l'Ouest le grand partenaire historique au sein de l'OTAN, que vous avez bien connu, qui, on peut dire comme ça, fait défaut, change d'avis tous les deux jours et menace de se désengager pour aller vite. Et donc, si dans cette situation, une guerre à l'Est, une guerre au Sud et un défi de votre partenaire historique, si dans ces moments-là, les Européens ne savent pas se retrouver, on se demande à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire comprendre que l'Europe politique est là? Parce que jusqu'à maintenant, les Européens, ou beaucoup d'Européens du moins, pensaient que il y avait l'Europe économique, le marché commun, tous les avantages que qu'on pourrait tirer du commerce européen.
L'heure de l'Europe de la défense est arrivée.
Oui, mais voilà. Et considérer que l'OTAN, c'était la défense, et au sein de l'OTAN, c'est les États-Unis. Là, maintenant, je crois que cette période est terminée. Les Européens sont confrontés à cette situation que j'ai décrite. Et la réunion qui a lieu, c'est une grande occasion de parler non seulement entre membres de l'Union européenne, mais aussi avec les partenaires non membres de l'Union européenne, tels que la Grande-Bretagne, tels que la Turquie, tels que les pays du Caucase, etc. Donc c'est très important que cette réunion ait lieu, je crois.
L'Europe a pris conscience qu'elle devait assurer sa propre sécurité. Quel avenir désormais pour elle ?
C'est le chemin de l'autonomie stratégique, en fait, c'est ça l'avenir. Et effectivement, le plus tôt on empruntera ce chemin, et il y a déjà quand même quelques pas qui ont été effectués, et plus vite on sera stable, en fait, dans un monde où effectivement on aura une Russie qui restera hostile à nos frontières et un partenaire historique de sécurité, notamment pour les pays d'Europe centrale, qui ne tient plus son rôle. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on voit se développer depuis plusieurs mois des choses qui étaient probablement inimaginables il y a quelques années, lorsque vous avez le Premier ministre allemand, le Premier ministre polonais, les pays baltes, ceux des pays baltes qui disent que, grosso modo, l'Amérique n'est plus fiable. C'est un véritable changement de paradigme stratégique pour ces pays-là qui va prendre du temps. On bascule pas d'une dépendance sécuritaire aux États-Unis en un claquement de doigts, mais en revanche, le fait d'avoir lancé ce processus, qui à mon sens est inéluctable, c'est probablement la meilleure nouvelle pour l'Europe.
Et c'est à noter, le chancelier allemand Friedrich Merz n'est pas sur place. On verra comment vous l'interprétez. Taline Papadian, vous trouvez que les Européens sont à la hauteur des enjeux actuels ?
Alors, ce serait bien malhonnête de ma part de dire que les Européens ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels, alors que je suis à Yerevan pour cette séquence assez exceptionnelle, assez hors norme, où on a à la fois une visite d'État du président Macron, le sommet de la CPE et le sommet UE-Arménie. Donc, en fait, en entendant tout à l'heure à la fois Muriel Domnack et Jacques Rupnik, je trouvais assez extraordinaire le parallèle entre l'incertitude et le fait que les Européens aujourd'hui sont obligés finalement de remettre à plat toutes les certitudes sur lesquelles ils avaient bâti leur vision de la sécurité et du monde dans ces 70 dernières années, le parallèle avec les questions et les défis qu'affrontent l'Arménie depuis quelques années, sous toute proportion gardée. L'Arménie aussi s'est retrouvée devant un champ de ruines. Elle a compris bien tard, mais elle a compris que dépendre de la Russie et mettre tous ses œufs dans le même panier pour sa sécurité en les mettant dans le panier russe, c'était un très mauvais choix. Et donc, en fait, l'Arménie aussi est dans ce moment où elle travaille à une diversification diplomatique très intensive, tous azimuts, vers l'Europe, mais pas seulement, et où en même temps, elle se pose des questions sur quel nouveau modèle, au pluriel, vers quel nouveau modèle elle peut aller.
et l'OTAN dans tout ça? Les Européens, c'est ce que nous dit Marc Rutte, ont reçu 5 sur 5 le message de Trump sur la défense. Cette réunion, c'est quoi? C'est l'OTAN sans les États-Unis presque?
L'OTAN, en la personne de son secrétaire général, est associée à cette réunion et c'est une très bonne chose. Mais si vous voulez, il y a besoin de toute façon que les Européens s'organisent entre eux, entre membres de l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, mais au-delà de l'Union européenne, dans cet espace, y compris au Caucase, où se joue notre sécurité. Le message des Américains, il est clair, les Américains ont d'autres priorités et ce serait les démocrates, ce serait la même chose que de prendre en charge entièrement la sécurité des Européens. On ne reviendra pas au monde d'avant dans lequel, comme le disait Jacques Roupnik, la construction européenne était finalement cantonnée aux aspects économiques et sociaux et où finalement une situation où les Américains fournissaient une tutelle de sécurité, c'était un bon deal pour les Européens. Alors, vous savez que la France a toujours fait l'hypothèse qu'il arriverait que les États-Unis ne souhaitent ou ne puissent défendre l'Europe et nous on a développé une dissuasion nucléaire indépendante et on a toujours plaidé l'autonomie stratégique. Aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que la France avait raison, mais ça n'aurait aucun intérêt de monter sur la table et de dire on avait raison. La réalité nous donne raison, on joue collectif au sein de l'Union européenne, on joue collectif avec nos principaux partenaires, disons, les pays européens qui ont le plus de capacités et qui augmentent leur budget de défense, et puis on joue collectif au-delà de l'Union européenne avec des partenaires qu'on a intérêt à protéger, y compris l'Arménie, la Moldavie. Voilà, les Européens s'organisent contre personne, pour eux-mêmes, sans les États-Unis, le cas échéant, non qu'on le souhaite, mais parce qu'il le faut.
Jacques Roupnik, on parlait tout à l'heure de l'absence de Friedrich Merz à Yerevan. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier qu'un pays aussi important que l'Allemagne ne soit pas là?
Oh, faut pas surinterpréter. Mmh. Bon, mais c'est vrai que... il vient de faire quelques déclarations assez fortes sur la politique américaine. Et je pense qu'il a peut-être décidé de faire profil un peu bas pendant quelques jours parce que les répercussions américaines ont été immédiates. Hein. Vous avez vu retrait de troupes, menaces de désengagement, etc. Et donc pour l'Allemagne, ça c'est quelque chose. Les Français sont habitués à ça, à ces passes d'armes avec les Américains. Les Allemands, non. Et donc beaucoup de gens trouvent que Merz est allé loin. Peut-être, je ne sais pas si c'est la bonne explication. Voilà, restez un peu en dehors. Il y a peut-être aussi l'idée que, voilà, c'est une initiative française. On a vu le président français à Yerevan, etc. Est-ce qu'il avait envie de en quelque sorte, j'emploie un terme peu diplomatique, jouer le second rôle à Yerevan? Je n'en suis pas certain. Et il y a une troisième raison que je lis dans la presse allemande, etc., des objections. Disons, l'idée que, voilà, sur quoi va déboucher une telle conférence? Il y aura une déclaration. Et après, quel est le suivi? Quelle est la conséquence? Donc, à la fois, on dit que c'est une excellente initiative, se rencontrer, d'échanger, etc. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Et pour revenir à notre sujet précédent, ben, quand on se dit qu'est-ce qui reste, quelle est la capacité européenne, ben, oui, c'est de rassembler comme à Yerevan aujourd'hui, mais c'est surtout la coalition des volontaires. Si on parle de choses concrètes dans le domaine de la sécurité et de la défense, il y a cette coalition des volontaires que président Macron, avec Starmer, le premier ministre britannique, avait lancée l'année dernière. Et vous avez là une douzaine de pays, en gros, pas tous les Européens, qui sont là, très déterminés pour mettre en route une Europe qui pense stratégiquement, voilà, qui pense les questions de sécurité et de défense. Et donc l'Allemagne est au cœur de ça, avec la France. Moi, je pense toujours, que l'axe stratégique France, Allemagne, Pologne, Weimar, le triangle de Weimar a un rôle tout à fait crucial à jouer. Je crois que l'évolution...
La Pologne qui s'est largement réarmée, on le sait, hein, depuis
l'invasion
de l'Ukraine.
Oui, la Pologne s'est réarmée. Elle a aussi compris que l'Europe pouvait jouer un rôle au moment où l'Amérique est en doute. Et on a vu que le chancelier allemand avait déclaré à Davos que maintenant l'heure est venue. Il n'a pas employé le mot de l'autonomie stratégique, mais en gros, c'est de ça qu'il parlait. Il faut que l'Europe se prenne en main. Mais si les trois pays qui ont une capacité, qui ont un poids politique au sein de l'Europe, peuvent fournir cet axe stratégique, ben ça favorisera bien entendu l'élan européen dans ce domaine.
Et on l'a noté aujourd'hui, les Européens veulent prendre évidemment leur distance, ou en tout cas pouvoir assurer leur sécurité eux-mêmes. Ils comptent néanmoins sur ces bases américaines en Europe qu'ils veulent garder.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, on ne bascule pas 70 ans de... Alors, ça dépend des pays, mais on va dire jusqu'à 70 ans de pensée stratégique défensive européenne basée sur la présence américaine. Ça ne change pas en un claquement de doigts. Et puis, les Américains ont déjà une bonne partie du matériel fourni, militaire, qui a été fourni notamment aux pays d'Europe centrale, du matériel américain. Il y a aussi donc, le parapluie nucléaire américain. Donc, tout ça, en fait, ça va prendre du temps à être changé. Il y a effectivement des premiers pas qui sont effectués. Néanmoins, en fait, ce changement, il est irréversible. Déjà parce qu'effectivement, je pense que l'Europe doit pouvoir exister par elle-même, c'est un premier point. Et aussi parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les Américains s'en iront quoi qu'il arrive. Donald Trump, c'est un catalyseur. Il le fait de façon extrêmement brutale et violente.
Un accélérateur de l'histoire.
Voilà. Et un brutalisateur aussi de l'histoire. Mais il n'empêche qu'effectivement, démocrates comme républicains sont tout à fait d'accord sur le fait de dire que leur problème, il se situe en Asie. Enfin, leur problème, leur challenge, il se situe en Asie, plus en Europe. L'invasion de 2022 a un peu rebattu les cartes temporairement, mais sur le fond des choses, ça ne change pas grand-chose pour les Américains. Et donc, effectivement, il faut prendre en charge, en fait, si vous voulez, notre propre sécurité. Ça se fera progressivement. L'idée, c'est probablement pour les Européens d'essayer de faire en sorte que le départ américain se fasse en bon ordre, en quelque sorte, et pas lorsque Donald Trump se réveille en disant « je retire plusieurs milliers de soldats d'Allemagne », par exemple. Mais par contre, effectivement, ce retrait, il est inéluctable.
Changement inéluctable, inexorable, on le disait, qui va prendre du temps. Taline Papadian, c'est votre grille de lecture également ?
Pour l'Europe, tout comme pour l'Arménie. Et je pense qu'en fait, ce sommet et cette communauté politique européenne à Yerevan, c'est aussi l'occasion pour les Européens comme pour les Arméniens de commencer un tout petit peu à mieux se connaître. Parce qu'il ne faut quand même pas avoir d'illusions sur le fait qu'il y a encore ne serait-ce que 4 ans de ça, il y avait certainement une bonne partie des pays qui sont des délégations qui sont présentes aujourd'hui à Yerevan qui auraient eu un peu de mal à situer. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais peut-être un petit peu de mal à placer les grands enjeux de l'Arménie. Il y avait cette idée que l'Arménie, de toute façon, dans une dépendance telle par rapport à la Russie qu'il n'y a un peu rien à voir, même si la révolution de velours de 2018 avait changé les choses. Donc c'est l'occasion de mieux se connaître, c'est l'occasion de comprendre les enjeux des uns et des autres, les défis des uns et des autres, et on ne peut que le souhaiter qu'une relation durable se construise, il faut qu'elle se construise sur des bases qui sont extrêmement honnêtes, réalistes et pragmatiques d'un côté comme de l'autre. Donc, pas de fausses illusions et pas de grands élans qui ensuite risqueraient d'aboutir sur des déceptions.
Muriel Domenac, quand l'Arménie cherche à renforcer son ancrage européen, les ingérences russes ne sont jamais très loin ?
Non, les ingérences russes ne sont pas loin de l'Arménie qui aura des élections législatives le 7 juin sous le contrôle de Tallinn. Et on voit bien, enfin, moi je lis le russe et je vois bien que les médias, mais aussi les personnalités russes introduisent un certain nombre de récits, hein, comme on dit, sur les risques pour l'Arménie à s'émanciper de la tutelle russe, qui sont pas mal repris dans le débat politique arménien, également d'ailleurs au sein de la diaspora arménienne dans plusieurs de nos pays.
Hein,
c'est intéressant à noter. Et donc, évidemment, les Russes ont réagi, réagissent, vont réagir. Aujourd'hui, à l'instigation de la France, d'ailleurs, également, se tenait une table ronde sur la résilience démocratique autour de Maia Sandu, la présidente de la Moldavie, qui également est une cible de la désinformation russe. Mais je voudrais que nos spectateurs entendent aussi que le deuxième pays après l'Ukraine le plus ciblé par la désinformation russe en Europe, c'est la France. Et pourquoi la France? Parce que la France a une capacité d'embrayage au sein de l'Union européenne qui en fait un acteur non pas suffisant mais indispensable dans la construction de toute initiative de résistance face à la pression russe. Et ce qui est évidemment intéressant, c'est de voir la manière dont la mouvance MAGA américaine parvient souvent à épouser les lignes de la désinformation russe, typiquement sur le sujet de la régulation des plateformes numériques, pour contrer les actions communes de l'Union européenne poussées par la France. Donc on a vraiment partie liée, en fait, avec l'Arménie, avec la Moldavie, pour travailler ensemble, et c'est ce qui se fait dans le cadre de ce sommet de la communauté politique européenne, sur les enjeux de manipulation des informations, de résilience démocratique et tout ce qu'on appelle le champ hybride.
Oui, peut-être on peut rappeler que, historiquement, pour les Arméniens, la Russie était comme un grand protecteur. Après le génocide arménien de 1917, la Russie est apparue aux Arméniens, en Arménie et dans la diaspora souvent aussi, comme un protecteur face à la Turquie, face aux menaces sécuritaires. Et donc, il y a cet héritage historique. Or, qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années, particulièrement quand il y a eu la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à propos du Karabakh? La Russie s'est abstenue. Et donc, pour la première fois, les Arméniens, je crois, ont constaté que le grand protecteur n'était plus tout à fait là, qu'il fallait peut-être, alors, non seulement se replier, parce que ça, c'était la défaite militaire, mais aussi peut-être envisager plus sérieusement, plus directement, l'ancrage européen. Parce qu'ils en parlaient de temps en temps, mais ils n'agissaient pas beaucoup. Et je crois que dans un contexte où, en Géorgie, pays voisin, les forces tournées vers l'Europe étaient justement en recul, et on a un régime qui maintenant, véritablement, se tourne vers Moscou, en tout cas coopère avec Moscou. Du coup, et on a l'Azerbaïdjan, qui est proche de la Turquie, disons, qui est en relation privilégiée avec la Turquie. Du coup, l'Arménie fait un choix européen, qui est important dans le contexte que je viens de mentionner, pour l'Europe aussi. C'est un ancrage européen dans cette région, et l'idée d'une perspective européenne pour l'Arménie, c'est pas pour demain, mais dire qu'ils font partie de la famille européenne, oui, ça, je crois que c'est important pour eux, d'abord, mais aussi pour l'influence européenne dans cette région.
Jacques Bonnard.
Oui, non, mais en fait, c'est vrai que la guerre au Karabakh, c'est en quelque sorte le révélateur aussi d'un reflux russe, en fait, simplement de l'influence russe dans la région. Alors, certes, non, pas en Géorgie, encore que la majorité de la population, je pense, a plus d'aspirations européennes que le gouvernement de rêve géorgien. Mais en revanche, oui, effectivement, il est très clair que pour les Arméniens, ça a sans doute été un espèce de réveil pour se dire qu'ils ne pouvaient plus dépendre d'un, je crois que c'est ce que disait la personne qui est en correspondance, enfin en tout cas qui est en Arménie, c'est qu'on ne peut plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Au même titre que les Européens d'Europe centrale ne peuvent plus mettre tous leurs œufs dans le panier américain, les Arméniens ne peuvent plus, en fait, faire reposer toute leur défense sur la Russie, qui non seulement ne les a pas défendus, mais surtout les déstabilise. Et en ça, le parallèle avec la Moldavie est assez intéressant, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez habile d'avoir fait parler Maia Sandu, parce que comme la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie a des troupes russes présentes sur son sol, elle est soumise à d'énormes tensions, on va dire, d'influence, d'opérations d'influence. Il y a un milliardaire en creux, alors Ilan Chor en Moldavie, M. Karapetian en Arménie, qui va probablement acheter des votes, essaie de déstabiliser la société de l'intérieur. Donc en fait, on a vraiment deux sociétés, deux petits pays qui sont soumis à une influence interne et externe de la part de la Russie extrêmement forte. Et donc effectivement, c'est aussi ça, cette communauté de politique européenne, c'est ce partage d'expériences entre pays pour essayer justement de faire front en quelque sorte contre un pays qui nous déstabilise à nos frontières, qui est la Russie.
Taline Papadzian, un mot sur ce sujet?
Oui, absolument, et merci, j'avais envie de rebondir depuis tout à l'heure. Donc on sait que Maia Sandu et Nicole Pachignan, quand ils se sont vus un peu plus tôt dans la journée, ont expressément abordé la question de la lutte contre la désinformation et des manières de pouvoir augmenter la résilience de la société par rapport à la désinformation, bien sûr venant de Russie, pas seulement dans le cas de l'Arménie, mais au moins, on sait qu'au moins la moitié des opérations de désinformation sur les réseaux sociaux proviennent de Russie au cours de la campagne électorale qui est en train d'avoir lieu en Arménie. En effet, des élections approchent et dans ce cadre-là, la Russie joue de quelque chose que Jacques Rupnik a en fait souligné un peu en creux tout à l'heure quand il a dit « Pour les Arméniens, la Russie a été très longtemps le protecteur ». Et en effet, les Arméniens ont accepté énormément de sacrifices en fait dans les 25 premières années ou 30 premières années de leur indépendance, donc depuis 1991, en prenant en compte le fait que la Russie, en dernier recours, serait un rempart contre le potentiel danger, et le danger même très concret, très réel, posé par le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh. Et au nom de ça, ils ont fait d'énormes sacrifices, jusqu'à d'ailleurs revenir sur un précédent accord avec l'Union européenne en 2013. Et donc là, les Arméniens, si vous voulez, reviennent de toute cette histoire et de ces peurs et de ces traumas vis-à-vis de leurs voisins qu'ils sont en train d'essayer de surmonter via des changements diplomatiques majeurs, donc paix avec l'Azerbaïdjan et regard vers la Turquie pour une réouverture des frontières dans l'année qui vient. On peut raisonnablement l'espérer.
On en parlait tout à l'heure, comme l'Europe est... C'est difficile pour l'Europe de se défaire de l'influence des États-Unis. C'est pareil pour l'Arménie avec la Russie. On est dans un double parallèle presque.
Oui. Autant le revirement américain est inquiétant et les pratiques américaines sont absolument disproportionnées. Mais je ne mettrai quand même pas...
Non, ce n'est pas la même histoire.
Virement américain sur le même plan que l'agression russe envers l'Ukraine. Il s'agit de changer de paradigme, c'est le premier point, et il s'agit de le faire ensemble, c'est le deuxième point. Et là, vraiment, le débat en France est quand même très, très articulé autour de nous-mêmes. C'est tout à fait légitime. Mais puisqu'on est sur France 24 et que vous êtes une fenêtre sur le monde et donc du monde et de sa réverbération en France, je crois que c'est important que nos spectateurs comprennent à quel point notre présent est façonné par ce qui se passe à l'extérieur. On le voit très clairement avec la crise géopolitique, donc énergétique, et donc notre avenir va l'être. Et jouer collectif en Europe, c'est fondamental. Il faut bien avoir à l'esprit que les Européens, les membres de l'Union européenne, mais aussi au-delà, je suis persuadée en Arménie, regardent ce qui va se passer en France en 2027. Donc si vous voulez... la raison pour laquelle, j'y reviens, la France est tellement ciblée par la Russie sur le champ hybride, hein, c'est-à-dire de la désinformation au cyber, c'est du fait de sa centralité en Europe. Et la raison pour laquelle vous avez vu que le département d'État consacre une stratégie d'influence particulière à décourager la régulation des plateformes que soutient évidemment la France, c'est pour la même raison. Donc, nous, Français, regardons-nous dans l'Union européenne, regardons l'importance de ce qui est notre rôle, ce sommet qui se tient à Yerevan sur une idée française en témoigne encore, et donc pensons collectif, nous aussi.
Jacques Rupnik, je vous voyais réagir.
Oui, il y a l'Arménie, il y a le Caucase. Ça, c'est le lieu où se tient la conférence. Mais la conférence a pour objet encore autre chose, le soutien à l'Ukraine. Le président Zelensky est là. Il y a énormément de réunions bilatérales qui se tiennent. C'est ça l'intérêt d'une conférence comme ça. Vous allez me dire, à 40, qu'est-ce qu'on peut bien... Il y a un communiqué qui est préparé. Bon, c'est l'art de la diplomatie. Bon, bravo. Mais il faut... ce qui est important, c'est la multitude de réunions bilatérales. J'en cite une. Le premier ministre slovaque, Fico, et le président ukrainien, Zelensky. C'était vraiment à couteau tiré. Sur la question du pipeline Drujba, l'amitié qui fournissait la Hongrie, mais aussi la Slovaquie. C'était vraiment très, très opposé sur la question de l'aide à l'Ukraine et de la possibilité d'une adhésion à l'Ukraine. Eh bien, nous avons vu qu'à la veille de la rencontre qui a lieu aujourd'hui, mais déjà il y a eu un échange de coups de fil, il y a une première je ne dis pas reculade slovaque, mais en tout cas atténuation de la position slovaque. Il dit nous ne nous opposons plus à l'entrée possible de l'Ukraine dans l'Union européenne. Ils ne sont pas en faveur d'une aide militaire à l'Ukraine, ça, ils n'ont pas franchi ce pas-là. Mais je le dis à cause de la conférence, c'est la possibilité d'aplanir beaucoup de différents bilatéraux. Et l'addition de ces différents bilatéraux, ben c'est le contexte dans lequel l'Union européenne collectivement peut agir.
Des rencontres, oui, mais avec quelle annonce peut-on imaginer aujourd'hui ?
Je ne peux pas dire les annonces, je ne peux pas anticiper les choses. En revanche, finalement, j'ai envie de dire que voilà, le communiqué, comme ça vient d'être dit, n'est peut-être pas forcément aussi important que toutes ces discussions qu'il y a. De toute façon, très concrètement, là, l'objectif principal, c'est aussi de faire une démonstration de solidarité avec M. Pachignan. Il y a des élections dans un mois. Le choix sera relativement clair. Il y aura d'un côté, effectivement, M. Pachignan et ce chemin vers l'Europe, à plus ou moins long terme, et d'un autre côté, en fait, une espèce de retour un petit peu en arrière avec voilà, des hommes politiques et milliardaires qui sont très clairement alignés sur la Russie. Donc l'Arménie est sans doute à un tournant. D'ailleurs, Emmanuel Macron aujourd'hui a dit que l'Europe était le seul choix raisonnable pour l'Arménie. Donc c'est d'ailleurs un petit peu inquiétant, ce genre de choix, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui se sont déjà retrouvés dans ce genre de choix un petit peu à fourche directionnelle. Et pour le coup, c'est le genre de situation dans lesquelles la Russie est la plus déstabilisante. Donc il faudra vraiment suivre les élections début juin en Arménie.
Et quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. Merci à vous quatre d'être venus sur le plateau de France 24. Merci à vous trois et merci à Taline Papadzian qui était en direct depuis Yerevan. Vous restez